Le gros buzz en ce moment, c'est le chat GPT. Avez-vous entendu parler de ça? Levez la main, ceux même qui ont consulté un peu ça. Oui, oui, c'est assez gros, ça. C'est tout un phénomène. Il y a beaucoup d'inquiétudes, en même temps, beaucoup d'excitation autour de ça. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment tout un outil. C'est un moteur de recherche qui compile des millions et des millions d'informations à travers le monde entier. Puis là, tu as juste à poser une question. Tu poses une question, là. Puis c'est comme si tu avais quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui te répondait. Puis tu peux continuer, puis il va continuer à te répondre. C'est comme, wow, c'est assez phénoménal. C'est fascinant. C'est drôle parce que sur Facebook, ils donnent des exemples de questions que les gens posent. Alors, je suis certain que vous allez deviner cette question. Une question qui revient assez souvent, comment devenir millionnaire? Écoutez, ça consulte à travers le monde entier, des experts partout, enfin! Alors, imaginez, j'ai fait de la recherche pour vous. Vous pourrez venir me remercier après le service. Je vais vous donner la réponse. Voici la réponse que ça donne. Devenir millionnaire est un objectif que beaucoup de gens ont, mais il n'y a pas de recette magique. Franchement, des millions d'informations à travers le monde pour me dire... Il n'y a pas de recette magique. Bon, OK. Ou de formule garantie pour y parvenir. Cependant, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Oh, oh! Mais non. Ce qu'on reçoit, c'est quelques conseils comme économise de l'argent, travail, fais attention à tes investissements. Moi, j'aurais pensé qu'il m'aurait dit « Investis dans telle action, puis tu vas voir, dans une semaine, ça va grimper, tu vas être millionnaire. » Non, là, ils me disent de travailler, puis faire attention, puis etc. Mais c'est gros. On va... La réponse finissait avec cette remarque. Il est important de garder à l'esprit que devenir millionnaire n'est pas une fin en soi et que la richesse peut prendre de nombreuses formes différentes. Il est donc important de réfléchir à vos valeurs et à vos objectifs personnels avant de vous lancer dans la recherche de la richesse financière. C'est songé. Maintenant, il faut réaliser que le moteur de recherche n'est pas parfait. De temps en temps, tu vas poser des questions puis il va y avoir des erreurs. D'ailleurs, à l'émission, tout le monde en parle récemment. Guy Lepage a fait des tests, des petits tests. Puis finalement, c'était vraiment cocasse, c'était drôle de voir des réponses qui n'avaient pas d'allure. Fait que c'est pas encore, ils vont perfectionner ça, j'imagine. Ils vont travailler là-dessus. Et cette semaine, moi, je me suis amusé de faire une recherche. J'ai posé une question. Qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi ça, la sagesse? Alors, réponse du chat GPT. La sagesse est un concept complexe qui peut être défini de différentes manières selon les cultures et les contextes. En général, la sagesse se réfère à la capacité de comprendre les choses profondément et de manière équilibrée et d'appliquer cette compréhension pour vivre une vie meilleure et plus heureuse. La sagesse est souvent associée à la maturité, à l'expérience de vie, à la réflexion, à la prudence, à la perspicacité, à la compassion et à l'empathie. Elle peut être cultivée à travers l'observation, l'écoute, la réflexion, la méditation, la lecture, la pratique et la relation avec les autres. La sagesse peut également être considérée comme une vertu qui implique de faire des choix éclairés et réfléchis pour atteindre des objectifs à long terme, plutôt que de rechercher des gratifications immédiates ou des résultats superficiels. En ce sens, la sagesse peut être considérée comme une qualité qui permet de vivre une vie plus saine et plus significative. Pas bête! Il réfléchit. T'as de l'allure. Maintenant, cette réponse est une bonne introduction à ce que l'on va voir ce matin. En fait, on commence une nouvelle série ce matin intitulée « Vers la maturité spirituelle ». Cette nouvelle série se penche sur le fascinant livre de Jacques, cette lettre de Jacques dans le Nouveau Testament. On va passer en fait 11 semaines, 11 dimanches, à la découverte de ce que Jacques a à nous enseigner. Maintenant, tournons ensemble, si vous voulez bien, pour ouvrir cette matinée et cette série dans Jacques chapitre 1. On va lire, si vous voulez bien, les 12 premiers versets. On va se limiter là cette semaine. Dominique continuera la semaine prochaine. Alors, Jacques 1, versets 1 à 12. « De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, Salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que la mer soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. L'une des choses dont Jacques va parler, qui va traiter à travers sa lettre, c'est la nouvelle vie, la croissance et la maturité. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé cette série « Vers la maturité spirituelle ». C'est qu'on est en chemin. On n'est pas arrivé encore et on n'arrivera jamais ici sur Terre à la perfection. Mais on est en chemin. On est en train de s'améliorer. On veut s'améliorer. D'ailleurs, c'est déjà une question que j'ai entendue même plusieurs fois. Une personne m'a demandé « Est-ce que Dieu m'accepte tel que je suis? » Vous savez, il y a des gens qui s'empêchent. Ils me l'ont dit. Il y a des gens qui s'empêchent de venir à l'Église. Et ils me disent « Je ne suis pas encore prête. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie avant de venir à l'Église. » Ben, non. Dieu t'accepte tel que tu es. On t'accepte tel que tu es. Viens tel que tu es. Nous sommes tous des pécheurs et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix justement pour prendre sur lui tout le mal que nous avons commis, même pensé. Il a payé cette dette-là qu'on avait envers Dieu afin de nous réconcilier à Dieu et nous donner la vie éternelle. Alors, est-ce que Dieu t'accepte tel que tu es? Est-ce que Dieu t'accepte tel que tu es? Oui! Amen! Mais Dieu t'aime encore plus que ça. Son amour va plus loin. Dieu t'accepte tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu l'es. D'accord? On parle donc ici de transformation, de croissance et de maturation. C'est le thème de la lettre de Jacques. Dieu veut transformer le pécheur en femme et en homme de Dieu qui ressemble de plus en plus à Jésus. C'est un message encourageant parce qu'en fait, ce qu'il nous rappelle, c'est qu'on est capable de changer et de devenir de meilleures personnes à l'aide et à la grâce de Dieu. C'est que le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre en nous lorsqu'on marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le livre de Jacques va nous aider à penser, agir et être davantage comme Jésus. Il est question donc de penser, qu'est-ce que je crois, d'agir, qu'est-ce que je dois faire, et être, qui suis-je en train de devenir? Jacques va nous dire que la foi, c'est pas statique, elle bouge, elle agit, elle marche, elle est active, elle veut suivre la volonté de Dieu. Et Jacques, d'ailleurs, va dire ceci, « La foi sans les œuvres est morte. » Quelqu'un qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui est en santé spirituellement va vouloir grandir. Ce que Jacques nous enseigne en quelques chapitres, c'est que la foi est un style de vie. Jacques est en train de répondre à quoi ressemble un chrétien qui prend de la maturité, qui est en train de grandir. Maintenant, laissez-moi ouvrir une parenthèse qui est très importante ici pour nous préparer à cette série. Ça va nous aider à mieux comprendre et recevoir l'enseignement qu'on va donner à travers les prochaines 11 semaines. Si on aborde la vie chrétienne avec l'idée qu'il faut s'efforcer d'obéir à toutes les prescriptions de la Bible, ou même du Nouveau Testament par nos propres forces, aborder de cette manière, la vie chrétienne est tout simplement invivable. Écoutez bien le témoignage de ce jeune homme. Il dit ceci. « Je me sens dépassé par ce qui semble être une liste de plus en plus longue de choses à faire pour devenir comme Jésus. Je suis stressé parce que je veux plaire à Dieu, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire. Faire mourir le péché, grandir dans les fruits de l'esprit, être le meilleur serviteur possible, vivre et m'investir dans ma communauté, faire des disciples, vivre un style de vie saint et aussi endurer la souffrance. Je sais que Jésus a dit que nous aurons des problèmes dans ce monde et qu'il a vaincu le monde, dit-il. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses que je dois faire. Est-ce que je me concentre sur certaines choses plutôt que sur d'autres? Ou est-ce que j'essaie de me concentrer un peu sur tout? À la fin de la journée, tout ce que je veux entendre lorsque je vais me présenter à la fin de ma vie devant le Seigneur, c'est le Seigneur qui me dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Maintenant, ce jeune homme démontre certainement une belle affection pour Dieu. Mais s'il continue à aborder la vie chrétienne de cette manière-là, il va réaliser finalement que la situation est beaucoup plus lourde qu'il ne le pense. Le jeune homme fait une liste de 8 commandements, 8 prescriptions impératifs comme chrétien. Faire mourir le péché, grandir dans les fruits de l'esprit. Il en énumère 8 au total. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il y a beaucoup plus de règles et de prescriptions qu'on va retrouver dans la Bible. Si tu prends juste l'Ancien Testament, il y a un rabbin du nom de Simlai au 3e siècle qui a fait le décompte des 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle notamment les livres de la loi. Et il a énuméré 613 lois. Et en passant, les Juifs aujourd'hui veulent suivre ces 613 lois. Et là, tu vas me dire, « Ah, phew, je suis arrivé au Nouveau Testament. Ah, merveilleux, on est dans le Nouveau Testament, ça va être tellement plus tranquille et tout ça. Ah, yes! » Attache ta tuque. On va regarder la to-do list du Nouveau Testament, d'accord? La liste de choses à faire. Par exemple, si tu prends juste la lettre de Jacques, c'est très court la lettre de Jacques. Il y a 54 prescriptions de choses à faire. 54. Tu prends la lettre de Paul aux Éphésiens et aux Romains, il y en a 41. Tu prends les épîtres en général, il y en a 128. Tu prends les évangiles, 1022. En d'autres mots, lorsque tu t'arrêtes et tu calcules toutes les règles, les prescriptions, les impératifs et tout ça que tu vas retrouver dans tout le Nouveau Testament, il va en avoir 1800. Ouf, fatigué. 1800. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que la vie chrétienne, abordée d'une certaine manière, c'est tout simplement invivable. Ça me fait penser à ce pasteur-là qui a posé la question à son assemblée, puis il a dit, « Est-ce que c'est difficile, la vie chrétienne? » Il a dit, « Non, c'est pas difficile. C'est impossible. » Absolument. Si on essaie d'aborder une attention particulière à chacun des commandements du Nouveau Testament, environ 1800, tu ne pourras jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'on est limité. Premièrement, est-ce que tu t'en souviens? Pense-y, là. Personne ne peut se souvenir, et encore moins se concentrer toute la journée sur 1800 devoirs. On ne peut pas garder autant de choses dans notre tête. En tout cas, moi, je ne peux pas. Sans parler de l'attention puis de l'effort que tu dois mettre pour prier pour chacune d'elles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'obéit pas, mais non. Jésus l'a dit dans Matthieu 28. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est important, l'obéissance. Chercher à plaire au Seigneur en faisant ce qui l'honore, c'est important. C'est une confirmation de notre nouvelle identité, de nouvelle naissance, de notre foi authentique. C'est important. Il faut pas jeter l'obéissance à la fenêtre. Ce n'est pas la solution. La parole de Dieu nous indique comment Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté et ses commandements. Si on est né de nouveau, on a donc été sauvé par la foi et justifié par la foi seule et non par nos œuvres. Alors disons tout de suite que l'effort pour grandir et faire la volonté de Dieu n'a pas pour but de nous mettre en règle avec Dieu. De toute façon, pensons-y, qui dans le monde entier pourrait par ses propres forces, obéir à 1800 commandements chaque seconde, 24 heures sur 24. C'est absolument impossible. C'est la preuve que nous sommes tous pécheurs et qu'il est absolument impossible d'être en règle avec Dieu sans Jésus. Jésus a mené cette vie conforme aux commandements de Dieu. Jésus a obéi aux 1800 prescriptions et commandements 24 heures sur 24 sans jamais faillir, sans jamais pécher. Amen? Ah, il est parfait. Et c'est grâce à Jésus et son sacrifice que nous pouvons être en règle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, quoi faire avec toutes ces prescriptions qu'on a? Eh bien, dans les deux lettres qu'on a parlé tantôt, Paul, qui écrit Éphésiens et Romains, à l'intérieur de ces listes qu'il va donner dans une section, à l'intérieur de ça, il va lancer un appel à nous transformer profondément de l'intérieur, afin que les fruits de notre nouvelle vie poussent naturellement, plutôt que d'être poussés par un effort intentionnel. Romains 12, 2 va dire ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'idée est de se donner à être profondément renouvelé, profondément transformé de l'intérieur afin que le discernement de la volonté de Dieu dans une centaine de cas vienne comme un fruit sur un arbre, et non comme des pas calculés comme si on marchait à travers un champ de mine. « Ah, là, tu peux faire ça. Non, là, tu ne peux pas faire ça. On retrouve le même principe dans Éphésiens 4, verset 22. « On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. » Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. On a donc besoin de penser en termes de transformation intérieure par l'Esprit Saint, en embrassant avec foi un nouveau moi que Dieu a créé et qui travaille en nous par l'Esprit Saint, qui va déborder alors spontanément avec des réponses appropriées dans des centaines de situations différentes. On doit donc se concentrer à approfondir, à renforcer, à intensifier les racines comme la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, la foi, l'espérance et l'amour, est représenté comme produisant de la vie. C'est comme entrer dans une sorte de repos d'obéissance. Et Jésus l'a dit, hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Son fardeau est léger. » Romains 1, 5 dit ceci, « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre, dit Paul, pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » La foi, l'espérance, l'amour produisent donc de la vie en nous. L'amour est d'ailleurs décrit comme la somme et la source de tous les autres commandements. Si j'ai plus d'amour, je vais vouloir faire la volonté de Dieu. Alors, comment avoir plus d'amour? Bien, Romains 5 le dit. Alors, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puis c'est vrai, lorsque tu es en amour, tu fais des choses que tu ferais peut-être pas du tout, n'est-ce pas? Si on a une compréhension qui est juste, et si on se repose dans la toute suffisance de Jésus et de ses promesses, il va y avoir une centaine de beaux fruits qui vont en découler. Je suis un homme nouveau. Je peux maintenant faire la volonté de Dieu par l'Esprit Saint qui vit en moi. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit et par la foi, j'ai besoin de comprendre et savoir que j'ai maintenant une nouvelle identité en Jésus, que je suis une nouvelle personne en Jésus, que j'ai la puissance du Saint-Esprit en moi qui va produire de beaux fruits dans ma vie et qui va m'aider à obéir à la parole de Dieu. Tu es en Jésus, tu es une nouvelle personne. Tu as une nouvelle identité. Alors, tu peux maintenant agir comme cette nouvelle personne que tu es. C'est comme le Dr. Klein qui disait tout le temps, « Devenez ce que vous êtes. » Vous êtes une nouvelle personne, vous avez une nouvelle identité, un nouveau manteau. Vous êtes un enfant de Dieu, adopté dans la famille de Dieu. Vous avez tout maintenant. Vous êtes une nouvelle personne, changée, transformée par la puissance du Saint-Esprit. Alors maintenant, marche selon ce que tu es. Alors, des centaines d'impératifs sont maintenant possibles. C'est un fardeau léger. Car j'ai la foi que l'Esprit me donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis rempli d'espoir, car même dans l'épreuve, je sais, je suis un enfant de Dieu bien-aimé. Je suis confiant, je me repose en Jésus. Alors, pendant qu'on va commencer cette nouvelle série, alors qu'on regarde ce terme vers la maturité spirituelle, laisse la beauté de Jésus, la grandeur de son œuvre pour toi, la richesse de ses promesses et la puissance du Saint-Esprit opérer une profonde transformation en toi. C'est toute une aventure, mes amis. On entre dans la lettre de Jacques. Et si on laisse l'Esprit opérer des changements à l'intérieur de notre cœur, vous allez voir, on va prendre la maturité spirituelle. Alors, acquérir plus de maturité spirituelle est tout à fait possible par la foi et la puissance de l'Esprit. Alors, gardons ça en tête alors qu'on commence à regarder le portrait du chrétien qui est en train de prendre la maturité spirituelle. À travers la lettre, Jacques va nous donner quelques marques qui vont nous aider à acquérir un peu plus de maturité spirituelle. En fait, ces marques nous aident à devenir un peu plus comme Jésus, dans le fond. Et la première marque qu'on veut regarder ce matin porte sur la sagesse de la persévérance. Jacques est très conscient, il commence sa lettre d'ailleurs comme ça, il est très conscient qu'on va passer tous par des moments difficiles. D'ailleurs, on vient juste de passer à travers la pandémie, qui aurait cru? Et moi, je suis vraiment triste pour les commerçants. Il y a tellement de commerçants qui ont fermé leurs portes, qui ont fait faillite, c'est incroyable. L'autre jour, j'ai reçu un téléphone, on m'offrait une grosse machine commerciale pour faire du café, puis pour l'église. Alors, si tu en as besoin, Normand, viens, puis ça. Puis, tu sais, on a commencé à jaser, puis on m'a dit finalement que c'est le propriétaire d'un building à Hull qui ont loué au gouvernement tous les étages, mais en bas, il y avait un beau Vanout, vraiment un beau restaurant, le Vanout. Et puis, il est obligé de fermer les portes à cause de la pandémie. Maintenant, nous, on est allé faire le tour, et puis on a pris quelques équipements sur place et tout ça. Ça nous est tout donné. Mais là, moi, d'un côté, j'étais content. Mais de l'autre, en même temps, je me dis, pauvre commerçant, pauvre propriétaire, il a vu son rêve complètement chamboulé. Ça a été changé en cauchemar, lui, qui avait ce rêve d'avoir ce beau commerce de Vanout, puis c'était vraiment beau, fermer les portes. Mais au-delà de la pandémie, on sait bien qu'on est tous confrontés à des saisons de vie plus difficiles, à différents niveaux. Et c'est donc qu'il est question dans le livre de Jacques. La question de Jacques porte sur le fait que nous allons tous passer par des épreuves dans la vie et la façon que nous allons réagir vont soit nous aider à grandir ou à nous éloigner de Dieu. Et Jacques va nous donner des instructions sur ce à quoi ressemble, ça a l'air de quoi un chrétien qui prend de la maturité et qui marche selon l'Esprit. Ça ressemble à quoi une vie qui suit Jésus, qui marche dans la sagesse et qui marche dans l'obéissance. Jacques va nous donner cette sagesse et la façon de gérer, de travailler à travers tout ça, à travers tout ce que la vie peut nous apporter. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la persévérance dans l'épreuve nous aide, c'est une des marques qu'on veut voir, à prendre plus de maturité. Pour avoir plus de maturité spirituelle, on a besoin donc de sagesse persévérante. On a besoin d'être constant, on a besoin de dépendre de la sagesse de Dieu pour y parvenir. Et Jacques prend les versets 2 à 4 pour montrer des leçons importantes ici qu'on a besoin d'entendre. Verset 2 dit ceci, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » Hey, ça c'est dur là. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Jacques commence directement avec les épreuves et nous dit ceci. Il dit, écoutez, il va vous arriver plein de choses dans la vie qui vont être difficiles et qui vont éprouver votre foi. Ce seront des moments d'épreuve, que ce soit au niveau de notre santé, physique, émotionnelle, relationnelle, financière. Tu peux être éprouvé dans ta vie de couple, éprouvé comme parent aussi, ou même si tu es célibataire, éprouvé comme célibataire. Les épreuves dévoilent nos vraies convictions et notre vrai caractère. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand Jacques parle d'épreuves et de tests ici, c'est qu'il y aura des événements et des circonstances dans ta vie qui mettront à l'épreuve qui tu es vraiment et ce qu'on croit vraiment. C'est dans les épreuves que nos convictions et notre caractère ressortent le plus. Tout ce qu'il y a de méchant, là, les impuretés dans notre vie, les imperfections, toutes ces choses vont être exposées quand on traverse des moments difficiles. Nos faiblesses de caractère sont comme mises à nu. Notre stabilité émotionnelle est mise à nu. La façon qu'on traite les autres, c'est mise à nu. Donc, Jacques est en train de nous dire que toutes ces épreuves qu'on va vivre à un moment donné vont exposer plein de choses dans notre vie sur notre caractère, notre cœur, notre confiance et notre foi en Dieu. Je le vois moi-même dans ma propre vie. Par moments, il m'arrive de penser que je suis une personne patiente. Ça m'arrive. De temps en temps, je me dis, « Ah, je suis pas mal un gars patient, moi. » Jusqu'à ce que je suis dans mon salon, je regarde à travers la fenêtre. Je regarde la rue. Plein de neige. Il neige beaucoup. Finalement, l'entrée n'est pas pire. Il y a de la neige dans la rue. Et là, le camion de la ville passe. Boum! Puis il te lance 1 mètre de neige juste dans mon entrée alors que je dois sortir. Moins patient. L'autre jour, cet hiver, il y avait de la neige. Là, il y avait un banc de neige. Je recule, je prends ma voiture, je recule. Boum, 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 boum. Là, j'étais content. Hey, ma voiture, elle va bien. Là, je me rends pas compte. Le lendemain, je regarde en arrière de ma voiture, je me penche, je regarde en dessous de ma voiture. Il y avait cassé quelque chose. Il y avait quelque chose qui traînait en dessous de ma voiture. Là, je ne pouvais pas aller au garage, tout ça, c'était chute. Là, il y a quelque chose qui traînait. Alors, moi, je me promenais avec ça qui traînait. Je disais, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je m'en vais sur la route, je vais voir mon nez, quelqu'un qui arrête à côté de moi. Je dis, oui. J'ouvre la fenêtre. Oui, oui. Il y a quelque chose qui traîne en dessous de ton camion, ta voiture. Merci. Ouais. J'arrive aux promenades, quelqu'un me coupe. Hein? Quoi? Il y a quelque chose qui traîne dans l'arrière de ta voiture. Je m'en vais sans achat. J'arrive chez nous. Je stationne dans mon entrée, chez nous. J'ai le voisin qui sort. Il dit, « Norm! Norm! T'as quelque chose qui traîne dans ta voiture. » Je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi patient que je pensais, finalement. Ça prend pas grand-chose. Ou encore, il y avait de la neige à notre entrée. Alors, je recule. Puis là, tu sais, il y a de la neige, je ne veux pas pelleter, je recule. Mais là, il y a la voiture de ma femme qui est là-bas en arrière. Là, je recule. Boum! Je débarque de la voiture, je m'en vais voir en arrière. Mon pare-choc, il y a une affaire de plastique cassé en deux, puis ça, tu sais. 400 $. Oh, mais... Finalement, je ne suis pas si patient que ça. Mais Jacques va nous aider ici. Il nous offre une nouvelle perspective des épreuves. Il est en train de nous dire, si Dieu nous pousse parfois à sortir de notre zone de confort, c'est pour nous transformer, pour nous changer, pour nous aider à grandir et à prendre un peu plus de maturité. Regardez ce qu'il va dire, c'est assez fort quand même. Regardez le verset 2, il dit, « Considérez comme un sujet de joie complète. » Quoi? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Il me semble, tu n'as pas le goût de te réjouir quand ça va mal. Mais ce qui peut nous aider à comprendre ici ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la joie et le bonheur. Le bonheur, c'est quand il t'arrive quelque chose de bien. Ça dépend des circonstances, pas vrai? Ton boss t'appelle, dit « Écoute, j'ai décidé de donner une augmentation de salaire. » Yes! T'es heureux. Mais la joie, c'est pas pareil. Il existe une grosse différence entre le bonheur et la joie. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que la joie est là quand le bonheur n'y est pas. Dieu a une joie pour toi, en dépit de tes circonstances, malgré tout ce que tu traverses en ce moment. Mais comment se réjouir quand ça va mal? C'est que Dieu est en train de faire quelque chose de beau en toi. Et Jacques nous aide à voir ça, là, à se rappeler de ça. Rappelle-toi que quand tu passes à travers une épreuve, là, même si c'est douloureux, c'est difficile, puis il n'y a pas beaucoup de bonheur là-dedans, là, rappelle-toi que Dieu est en train de faire quelque chose de beau en toi. Il prend même des mauvaises choses, des difficultés, des souffrances, des douleurs, puis il va en tirer du bien. Il ne les cause pas nécessairement, mais il leur permet d'arriver afin de produire du bien. Et c'est dans ce sens qu'on peut avoir de la joie. Dieu ne gaspille pas une souffrance. Verset 3 dit, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » C'est le langage de maturité ici. On est en train de parler de croissance. C'est le langage de la joie. C'est le langage du perfectionnement vers une ressemblance encore plus grande et plus proche de Jésus. Jacques est en train de nous dire, c'est comme ça que tu vas grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors que tu traverses ces temps difficiles, laisse cette vérité te procurer de la joie, que Dieu est en train de développer ton caractère. Il est en train de te faire grandir et il est en train de développer ton caractère. Alors, lorsque je suis dans une saison plus ombrageuse dans ma vie, je peux poser la question au Seigneur. Seigneur, comment es-tu en train de me faire ressembler davantage à Jésus ici? Et quelle que soit l'épreuve, fuir ne nous aidera pas à grandir en maturité et dans la foi. Alors Jacques nous dit, persévère quand ça arrive. Ne lance pas la serviette. Parce que Dieu est en train de faire une belle œuvre. Il est en train de faire quelque chose de beau en toi. Maintenant, Jacques nous donne de l'espoir ici. On trouve tous ces moments d'épreuve difficiles, mais quoi faire? Jacques est en train de nous dire, rappelle-toi que Dieu est généreux. Verset 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, il lui sera donné. Dans les épreuves, mes chers amis, et ça c'est le message du passage, allons vers Dieu, car il est généreux. Nous avons cette belle occasion de nous présenter devant Dieu, de lui demander son aide et de sa sagesse. Dieu donne à tous simplement et sans faire de reproche. Dieu, en d'autres mots, ne nous fera pas honte, il ne nous condamne pas, il ne nous rappelle pas toutes les fois qu'on a fait une gaffe, il ne dira jamais encore, il se moque pas de nous et de nos stupidités. Ça t'arrive de faire des choses des fois qui sont comme un peu stupides? C'est comme moi, oui. N'oublions pas que c'est Dieu qui inspire les paroles de cette lettre. Et Jacques, de Jacques, et ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est « Tu me procures de la joie lorsque tu viens à moi. Je suis excité à l'idée de pouvoir t'aider et t'accorder de la sagesse. » Mais voici la clé. Verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Maintenant, laissez-moi clarifier ici quel genre de doute on parle. Il y a toutes sortes de doutes, mais le doute dont Jacques a en tête ici, c'est la suivante. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Être partagé, c'est un peu comme un homme à deux têtes, là. Il y a plusieurs formes de doute. Mais ici, ce que Jacques veut dire, c'est que les décisions que je prends et ce que je veux faire dans la vie, je crois qu'elles sont plus sages que celles de Dieu. Je pense qu'on agit pas mal de temps en temps comme ça. Est-ce que je recherche toujours la sagesse de Dieu avant de prendre telle ou telle décision? C'est à ça que ça ressemble à être partagé. C'est quand je laisse entendre d'un côté que je veux obéir à Dieu, mais en réalité, je veux faire ce que je veux. On est partagé. Et c'est contre ça que Jacques nous met en garde. Jacques nous dit, non, ne sois pas partagé dans tes idées. Sois résolu, sois décidé, marche par la foi, persévère, va vers Dieu, vas-y, va vers Dieu. Cherche sa sagesse, car il est généreux. Lorsqu'on est partagé, on ne laisse pas vraiment Dieu nous diriger. On est comme les vagues de la mer, on est tassé de droite à gauche. Lorsqu'on veut mener notre vie en nous fiant qu'à notre propre sagesse, on va vaciller, que ce soit dans nos émotions, que ce soit devant les tentations ou encore dans les relations brisées. On est des pécheurs, on va faire du dommage. Mais avec Dieu, avec sa puissance et la main de Dieu sur ta vie, ce qui va arriver, c'est que Dieu va te donner de la sagesse. Il va te soutenir. Il va même te donner une paix au milieu de cette tempête. Il va même te permettre d'avoir une joie profonde au milieu de cette saison. Et on regarde l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Philippiens, qui n'arrête pas de parler de la joie alors que lui-même est en prison, dans Philippiens. Quand on cherche la sagesse de Dieu, il nous la donnera généreusement. Et cette sagesse va nous permettre de persévérer et avoir même de la joie dans la persévérance des épreuves. L'espoir qu'on a, c'est qu'on a un accès à cette sagesse persévérante grâce à ce que Jésus a fait. J'inviterai les musiciens à venir maintenant avec l'équipe de louanges. Jésus nous a montré exactement la vie qu'on est appelé à vivre et il l'a accomplie pour nous. Il nous a donné un accès, il y a une relation avec Dieu qu'on ne pouvait pas avoir par nos propres forces. Et l'auteur du livre aux Hébreux nous dit au 12e chapitre, verset 2, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Jésus est celui qui perfectionne notre foi quand on regarde à lui, quand on marche avec lui, quand on mène la vie pour laquelle on a été appelé et on a été créé à vivre. C'est là qu'on trouve cette belle sagesse persévérante. Et on réalise que lorsqu'on regarde à Jésus, il nous donne généreusement de la sagesse, mais plus encore, il donne généreusement de lui-même. Alors, bien-aimés, dans les épreuves, approchons-nous de Dieu, car il est généreux. Il donne sa sagesse, la persévérance et une joie profonde qui vient de lui. Seigneur notre Dieu, par nos propres forces, c'est impossible de suivre ta volonté à la perfection. Mais combien nous sommes encouragés de savoir que tu as tout fait pour que nous puissions marcher dans tes voies. Merci pour ton esprit. Merci pour le salut, pour Jésus et ce qu'il a accompli à la croix, afin de nous réconcilier à toi, Seigneur, nous adopter dans ta famille, nous justifier, nous sanctifier. C'est ton œuvre, tout ça. Et on veut te glorifier pour tout ça, Seigneur, te rendre gloire et te dire merci. C'est au nom de Jésus qu'on te prie, Seigneur, et on te demande qu'au cours de cette nouvelle série qui commence, tu puisses opérer ces changements au fond de notre cœur, qu'on puisse grandir, car c'est tout à ton honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.